Nous écoutons maintenant deux lectures bibliques, la première dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Amos, au chapitre 7, et la seconde dans l'Évangile selon Marc.
Dans le livre d'Amos, au chapitre 7, Amasia dit alors à Amos, « Toi, le voyant, décampe d'ici et rentre au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en faisant le prophète. Mais cesse de jouer au prophète ici, à Bethel, car c'est un sanctuaire royal, un temple officiel. » Amos répondit à Amasia, « Je ne suis ni prophète de métier, ni membre d'un groupe de prophètes. Je gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. Seulement, le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau et il m'a dit d'aller parler en prophète à Israël, son peuple. » Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, il appela les 12 disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs et leur fit ses recommandations. Ne prenez rien avec vous pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, ni sac, ni d'argent dans la ceinture. Mettez des sandales, mais n'emportez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, si vous recevez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir et de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples s'en allèrent donc proclamer aux gens de changer de vie. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient.
Si nous revenons au texte du prophète Amos, le premier texte que nous avons lu, nous nous situons à peu près au début de son ministère de prophète. Et les débuts de vocation prophétique sont toujours un peu mouvementés. Il faut déjà accepter la mission, hein, cette mission, si toutefois vous l'acceptez, etc., etc. Et peu l'acceptent tout de suite, en tout cas pas sans réfléchir. Et puis une fois qu'elle est acceptée, tout de suite ça commence à se gâter. Ici, au début de son ministère, Amos est chassé de Bethel. Le Bethel, c'est le centre religieux du royaume du Nord. Ça se situe à l'écart de la capitale, Samarie, au nord, mais c'est son centre religieux. C'est l'équivalent pour le royaume du Nord du temple de Jérusalem, qui est, lui, dans le royaume du Sud. Et on l'envoie donc prophétiser ailleurs. Un décampe d'ici va donc prêcher ailleurs, dans le royaume de Juda. C'est un petit peu dans le droit fil, d'ailleurs, du texte de Marc que nous avions lu ensemble la semaine dernière, décidément. On n'est pas prophète en son pays, hein, il faut toujours aller ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui vous dit « décampe, dégage, ou va parler, on ne va pas t'empêcher de parler, mais fais-le donc ailleurs. Voilà. » Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à un gardien de troupeau et qui est planteur de sycomores et qui s'assure de leur entretien à ses heures perdues? Pourquoi aller chercher un quasi-étranger originaire d'un peuple réprouvé par les Judéens, parce que les Samaritains, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de prendre un homme du cru? Ça ne les aurait sans doute pas empêchés, en cas de discours gênant, de lui demander de décamper, sans doute, mais il aurait peut-être fait moins tâche dans la culture locale. Mais nous verrons un peu plus loin que, en ce qui concerne le prophète Amos, c'est un peu plus compliqué que ça. Il ne faut pas prendre à la légère l'opposition entre le Nord et le Sud dans l'histoire de l'Israël ancien. Ce n'était pas des divergences légères qu'on pouvait aplanir par une ou deux conversations à peu près apaisées. Il fallait plus que cela, c'était une haine profonde. Le royaume du Nord nouait des alliances politiques, militaires avec les Assyriens, l'empire puissant de l'époque, dans l'espoir de tempérer les appétits assyriens de conquête. Mais tout cela se faisait un peu sur le dos des voisins, notamment du royaume du Sud, ce qui a attisé cette haine profonde entre les deux royaumes. Cette haine vient notamment de cette période trouble, évidemment, de ces alliances hasardeuses, mais aussi d'une rivalité religieuse entre le temple de Jérusalem et le lieu de culte principal, qui était celui de Bethel, au nord. Deux concurrences politiques, deux mésententes et deux lieux de culte presque concurrents, alors qu'ils auraient dû être frères. L'envoi d'Amos dans le sud n'a donc rien d'une promenade de santé. C'est une mission très risquée qui lui est confiée, mais ça ne tranche pas beaucoup avec ce qui était attendu, par ailleurs, des autres prophètes. Malheureusement, on le sait, par la suite de l'histoire, les liens douteux du royaume du Nord avec la Syrie vont mal finir. Les tentatives de conciliation vont échouer à éviter l'invasion de ce puissant voisin. Au 8e siècle, la capitale Samarie est dévastée par les armées de l'empereur Sargon, deuxième du nom, et l'ensemble du royaume du Nord est rayé de la carte. Le royaume du Sud, lui, restera un temps indépendant, hors de tout conflit, momentanément en tout cas, mais les armées de Babylone détruiront bientôt, elles aussi, au VIe siècle, le temple de Jérusalem, mettant fin au royaume de Juda et orchestrant la déportation d'une partie, au moins, de la population. La catastrophe, à ce moment-là, était parachevée, on peut le dire. C'est pourtant à Babylone, puis sous la domination de l'Empire perse, que les exilés, dans cette période obscure, ce fond du trou, ont produit une grande partie de la Bible que nous avons aujourd'hui entre les mains. C'est souvent dans les temps de crise que on se rappelle des fondamentaux, on les sélectionne, on les trie, et puis on les fixe par écrit définitivement pour être sûr de ne pas les oublier. C'est pour ça que la Bible est composée en grande partie à cette époque-là, pour conjurer le risque de réplique d'un séisme pareil. Ce qui est certain, c'est que nous connaissons les origines du désastre, notamment dans les écrits du prophète Amos, si vous poursuivez un petit peu la lecture après le passage que nous avons lu, mais chez les autres prophètes aussi, c'est un peu la même chose. Les livres prophétiques ont longuement détaillé le manque de fidélité et de confiance du peuple envers son Dieu, et les défaites traumatisantes sont apparues comme les conséquences terribles mais méritées d'une désobéissance, d'un éloignement coupable. C'est comme ça que ces circonstances pénibles ont été interprétées. Lorsque nous relisons les arguments assez classiques des prophètes, nous trouvons toujours assez choquante leur compréhension de l'histoire, parce que nous avons appris avec le temps que nous étions tout à fait capables de voir en nous-mêmes l'origine des catastrophes qui nous accablent, sans avoir besoin d'un Dieu colérique qui en rajoute une louche et qui fait de la sanction l'essentiel de sa pédagogie. Est-ce pourtant la seule manière de lire ces textes, si longtemps après les faits, et puis surtout si longtemps après l'interprétation qui en a été donnée? Amos était en réalité un judéen. Eh oui, il n'était pas chez lui quand on lui a demandé de décamper. Ça aussi, ça nous rappelle un certain nombre de choses. Il venait du royaume du Sud, même si nous ne savons pas ce qu'il fabriquait à ce moment-là dans le royaume du Nord. Comme tous les prophètes, les circonstances politiques, militaires, ne l'intéressaient que comme symptôme d'une crise de la foi. Il lisait les événements pour mieux parler de quelque chose qui avait trait à la foi, à la confiance, à la morale de la société dans laquelle il vivait, même s'il n'était pas du lieu. Il liait, lui, à Amos, comme tous les autres, les deux dimensions religieuses et politiques, parce qu'il ne faisait pas partie d'une civilisation comme la nôtre, habituée depuis longtemps à les distinguer, sans les séparer, mais les distinguer au moins assez strictement. Amos trouvait donc tout naturel de reprocher à ses contemporains, du nord comme du sud, puisqu'il voyageait entre les deux, de ne plus tenir compte des impératifs sociaux découlant de l'alliance avec Dieu. Les plus faibles étaient abandonnés au pouvoir écrasant des puissants, à l'intérieur des frontières du pays. Et c'était en quelque sorte le modèle réduit d'un futur écrasement venant du dehors. Le petit était montré du doigt comme image, comme anticipation d'une catastrophe plus grande qui n'allait pas tarder à venir. Le premier était l'image et l'anticipation du second, si vous préférez. Le prophétisme est toujours une histoire de faiblesse piétinée, jamais prise en compte, toujours oubliée, jusqu'à la déchirure fatale. Le respect de la veuve et de l'orphelin, parce que c'est de cela qu'il s'agit, paraît infime devant les catastrophes guerrières de l'histoire. Pourquoi aller chercher dans des faits aussi insignifiants, aussi petits, l'explication de cataclysmes qui emportent tout un continent ou toute une planète? Nous avons du mal à croire qu'il puisse y avoir dans quelque chose d'aussi petit, d'aussi habituel aussi, peut-être d'aussi ordinaire, anodin, d'y voir une répétition générale en plus petit d'une catastrophe plus ample. Et pourtant, le prophétisme s'est acharné à affirmer cette chose-là. Si l'histoire telle que nous la comprenons ne nous donne pas d'exemple probant de punition divine, si ça nous arrive, c'est bien fait et c'est Dieu qui l'a voulu, hein, c'est comme ça que c'était souvent lu, elle nous donne en revanche un nombre impressionnant d'exemples d'effondrement de sociétés déséquilibrées parce qu'injustes et blessantes. Ça, nous en avons des tas à disposition, à commencer par les nôtres. Et cette fois-ci, notre propre conception de l'histoire et de ses ressorts nous permet d'accéder au fond du discours prophétique. La fidélité à Dieu pour les prophètes, comme pour nous, c'est être fidèle à l'exigence d'un monde qui fait ce qu'il faut pour ne pas se tirer une balle dans le pied, être fidèle au projet d'un monde qui sait pouvoir disparaître face aux appétits puissants du dehors quand la faiblesse du dedans rend tout à fait vulnérable. Cela, nous sommes parfaitement capables de le comprendre et avec une toute autre conception de l'histoire, parce que nous avons des exemples qui l'illustrent. Le discours d'Amos est dirigé tout entier vers cet objectif de sauvegarde, on peut d'ailleurs dire de salut, le salut d'un monde et pas d'une personne seulement. Ce n'est pas une question d'imperfection cultuelle ou d'irrespect des procédures religieuses. C'est une question morale, d'abord et avant tout. Si nous ne sommes pas fidèles aux exigences de justice et garants des équilibres fondamentaux d'une société, elle finit par mourir de ses déséquilibres. Elle s'effondre sur elle-même. Les royaumes du Nord et du Sud n'ont pas disparu à cause d'un défaut cultuel. Ils se sont disloqués de l'intérieur et leur faiblesse est devenue une tentation énorme pour leurs ennemis. Il ne leur a pas fallu pousser beaucoup pour entrer dans la forteresse. Il n'est pas anodin que ce soit un responsable des questions religieuses qui dise à Amos « Va donc prêcher ailleurs ». Ce royaume se croyait à l'abri. Tu peux raconter ce que tu veux, nous ne sommes pas concernés par ça. Quel aveuglement! Ce royaume se croyait à l'abri et pourtant il était le plus faible des deux. C'est celui qui tombera le premier de sa faiblesse, de son délabrement. C'est lui qui était vermoulu. Eh bien, historiquement, il s'est effondré le premier. Ce texte doit nous faire penser à la faiblesse actuelle de nos sociétés, celle que nous observons maintenant, ces dernières années, ces dernières semaines également, leur déséquilibre qui provoque des déchirures qui peuvent peut-être être fatales si nous décidons de ne rien faire, ou bien si nous contemplons notre propre dégringolade avec un sourire de dandy, le sourire malsain du dandy, amateur de décadence et de catastrophe, parce que ça a quelque chose de cinématographique et de spectaculaire. Depuis les élections récentes en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, jusqu'à la tentative d'assassinat d'un ancien président américain, toute récente, les violences et les incompréhensions s'accumulent dans nos sociétés démocratiques, au point de les faire ressembler à des cocottes minutes, et la recherche d'une soupape pour éviter les explosions violentes dues aux frustrations accumulées pourra aboutir, mais elle n'aboutira que si nous savons travailler sur nos propres déséquilibres intérieurs. Nous savons qu'au dehors, des ex-empires frustrés, eux aussi, par leur puissance perdue, nous observent avec attention et utilisent toutes sortes de moyens pour nous déstabiliser. Leurs fake news, leurs fermes à trolls, etc. Ils sourient de nous voir tituber. Ça leur fait plaisir, parce que c'est peut-être leur seul moyen de nous affronter. Le pire serait de déclarer au discours qu'apporte Amos et à tous ceux qui en sont porteurs aujourd'hui, porteurs d'un équivalent, serait de dire « Décampe d'ici, va prêcher ailleurs. » Après des années et des années de dégagisme à se dire « Je ne veux pas t'entendre, dégage », la pire des âneries serait de perpétuer ce réflexe. « Va donc prêcher ailleurs, décampe. » Comme si nous n'étions pas concernés alors que nous sommes peut-être vermoulus et qu'il faut y faire quelque chose pendant qu'il est encore temps. Il est au contraire urgent d'écouter toutes les demandes de justice, c'est-à-dire toutes sans exception, qu'elles viennent des bien ou des mal votants, peu importe. Et si vous le remarquez bien, ça vient par la parole. Aucun des prophètes, ni Amos ni aucun autre, n'a levé des fonds pour faire ceci, cela, ni levé une armée pour contrer, pour aller aux frontières, se battre, etc. Ça leur a d'ailleurs été reproché, ils se sont contentés de parler, des beaux parleurs, des blablateurs. Ça s'est fait par la parole pour les prophètes parce que c'est toute la mission d'un prophète. C'est la seule manière qu'ont utilisé Amos et tous les autres pour nous dire qu'il faut commencer pour rétablir les équilibres à l'intérieur qui nous minent plus sûrement que des attaques du dehors, par rétablir une conversation normale, loin des outrances et des insultes, loin des dégages, des campes d'ici ou va prêcher ailleurs. Eh bien, nous avons du pain sur la planche, de la viennoiserie, des bretzels et même de la brioche. Amen.